Alors aujourd'hui, c'est le début de la Semaine Sainte et le dimanche des Rameaux. Cheryl a mentionné que c'est une semaine vraiment importante dans la chrétienté, disons, de l'Occident ou de celle qui est plus basée en Europe, parce que les orthodoxes, je ne sais pas si vous le savez, mais ils vont fêter la Semaine Sainte et Pâques la semaine d'après. Il y a un décalage d'une semaine, mais c'est les mêmes significations, c'est le même Seigneur qu'ils vont célébrer. Aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, j'ai changé le thème légèrement parce qu'on a juste trois réunions cette semaine. Il faut regrouper les thèmes. Donc, on ne va pas parler de l'entrée triomphale et le grand Hosanna. Je sais que c'est le fun de célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais on va parler d'un autre épisode de la semaine, la dernière semaine de Jésus, qui est relié. C'est un peu les mêmes thèmes. Jésus qui est le roi et les gens autour de lui pensent qu'ils comprennent sa royauté, mais Jésus les surprend toujours et nous leur repose la question, maintenant que je te montre quelle sorte de roi que je suis vraiment, est-ce que tu vas continuer à me suivre et à m'obéir? Et c'est la même question pour nous ce matin. Alors, l'épisode qu'on va considérer ce matin, c'est quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Je vous invite à prier avec moi encore une fois. Oh Jésus, on te parle maintenant, tu es le ressuscité. Tu règnes dans les cieux, tu es ici parmi nous. Tu frappes à la porte de nos cœurs et tu es en train de former ton corps toujours plus, toujours plus loin, toujours dans des nouveaux recoins du monde et ici même, dans l'ouest de Montréal. Nous te bénissons, mais nous voulons aussi comprendre ta royauté, refocaliser nos yeux spirituels, comme on a dit la semaine passée, sur qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu veux vraiment de nous. Je te prie pour les jeunes, afin que tu puisses les aider à être attentifs, à comprendre le message pour eux, même si parfois, le pasteur parle longuement, mais Seigneur, je prie que tout le monde puisse en retirer quelque chose, parce que c'est toi, ultimement, qu'on veut entendre, malgré les limites des êtres humains. Oh Jésus, parle-nous ce matin. Au nom de Christ, nous prions. Amen. On va lire le texte maintenant, un texte vraiment extraordinaire dans Jean, chapitre 13, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner au début de Jean, chapitre 13, le verset 1. On va lire les 17 premiers versets. Et puis, mais vous pouvez aussi suivre à l'écran. Si vous êtes capable de lire, c'est un peu petit hein, pour ceux qui sont en arrière, mais c'est dans la version second 21, ici dans les diapos. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Et Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pardon. Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. » Pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il a dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après avoir lavé les pieds des disciples, il reprit ses vêtements et il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Pardon. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Pardon. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Amen.
Amen. Amen.
Alors, le principe, un des principes vraiment importants, celui sur lequel on va se pencher aujourd'hui, qui se dégage de cette histoire, c'est le suivant. Pour servir quelqu'un d'autre comme Jésus le demande, il ne s'agit pas de répondre à ses désirs, donc au désir de la personne, mais plutôt de servir les intérêts de Dieu dans sa vie. Alors, un petit peu compliqué, on va relire ça. Pour servir quelqu'un d'autre comme Jésus le demande, il ne s'agit pas de répondre à ses désirs, mais bien plutôt de servir les intérêts de Dieu dans sa vie. Plusieurs ont déjà étudié ou lu ce petit livre « Quand aider fait du tort », qui est sorti il y a peut-être une dizaine d'années et qui a eu un grand impact dans tout le domaine de l'aide envers les gens dans le besoin. Dans ce livre, on voit qu'on peut, par exemple, mal aider. Bien, avec de très bonnes intentions, on peut mal servir les personnes qui luttent avec la pauvreté sans vraiment prendre en considération le plan de Dieu pour eux, mais juste en répondant directement à leur cri à l'aide. Parce qu'en faisant cette erreur, en agissant trop rapidement, trop directement, les personnes peuvent devenir dépendants sur notre générosité et ne pas apprendre à devenir dépendants sur Dieu. Et c'est ça, ultimement, notre rôle en tant qu'Église, en tant que chrétien. Donc, c'est un livre dont on va parler davantage cette année parce que nous sommes une Église de compassion et nous sommes une Église d'entraide. Nous sommes une Église qui met beaucoup d'énergie à aider les gens dans le besoin et on veut continuer. Et on veut continuer en nous améliorant toujours, en vérifiant toujours, est-ce que nous le faisons de la manière que Jésus demande. Et justement, ce texte parle de l'idée de servir, parle de l'idée d'aider ceux qui ont un besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous. Et il faut prendre le temps de comprendre ce que Jésus demande vraiment. Et j'ai eu de la misère avec ce texte cette semaine. J'espère que ce que je vais dire va vous aider, que vous allez comprendre, parce que j'ai fait 4 observations et j'aimerais que nous fassions ensemble 4 observations importantes qui me sont venues à travers cette histoire. Si jamais quelqu'un en arrière pouvait aller chercher un verre d'eau, c'est peut-être pas évident. Il n'y a pas d'eau encore dans la cuisine, hein? Oui? Ça m'aiderait. Oh! Une bouteille d'eau. Neuf. C'est donc gentil. Merci beaucoup. Elle est ici pour la première fois. Elle me donne une bouteille d'eau. Wow!
Amen!
Hey! Je pense que ça va bien avec notre message. Enfin, vous allez juger. La première observation, quelque chose qui est vraiment un accent de cette histoire, Jésus est vraiment présenté comme le Seigneur de ses disciples, pas comme leur serviteur. Il est vraiment le maître. Et c'est vraiment une insistance. Je voudrais reculer un peu et parler du contexte. C'est le repas de la Pâque que Jésus a préparé pour ses disciples. Et dans les repas importants, dans cette culture-là qui était très influencée par le monde gréco-romain, parce qu'ils étaient plongés dedans, les convives étaient couchés autour d'une petite table assez proche du sol, couchés dans des sortes de divans. La table, il y avait la nourriture et leur divan faisait comme un cercle avec les pieds qui étaient à l'extérieur du cercle. Puis, je pense que les convives étaient un peu comme tordus pour pouvoir prendre la nourriture. Et c'est comme ça que les Romains faisaient. Puis, on voit dans les évangiles que dans les repas importants, Jésus et ses amis mangeaient comme ça aussi. Donc, les pieds, ils sont à l'extérieur du cercle. Et quand on était invité à un repas, même si on arrivait propre, on se lavait avant, on se parfumait, on s'habillait du mieux qu'on pouvait pour aller au dîner, mais les pieds se salissaient typiquement dans le voyage pour y aller. Et donc, normalement, et surtout quand les gens étaient riches, quand tu rentres, la première chose, c'est que quelqu'un te lave les pieds. Normalement, un des esclaves ou serviteurs de la personne riche, nous vivons dans un autre monde, mais on a quand même une coutume un petit peu semblable. Tu peux être beau et propre, mais quand tu rentres chez quelqu'un en hiver, t'enlèves tes bottes. Une autre coutume qu'on a, tu peux être beau et propre, mais tu vas peut-être aller te laver les mains avant le repas. Et dans cette culture-là, une des choses importantes, c'était le lavement des pieds. Maintenant, un autre aspect du contexte, c'est le dernier repas de Jésus. Ça précède sa mort sur la croix pour ses disciples, pour nous tous. Jésus est vraiment heureux de vivre ce moment avec ceux qu'il aime. Mais malgré cela, il y a une présence du mal dans cette chambre. Et le narrateur de l'histoire la mentionne parce que Jésus en est très conscient. Les disciples, peut-être pas, sauf peut-être le traître lui-même. Il est là. Il se prépare à livrer Jésus et Jésus le sait. Jésus sait qu'il va être arrêté plus tard dans la soirée. Imaginez ça, là, un grand repas, mais c'est pas la fin de la soirée, c'est juste un élément. Il va se faire arrêter et il va mourir le lendemain dans des conditions terribles. Et Jésus a décidé d'avance d'utiliser ce moment important pour enseigner encore une fois à ceux qu'il aime. Wow! Alors, ça, c'est le contexte. Mais ce qui est dit d'un bout à l'autre de cette histoire, Jésus est présenté dans sa grandeur. Il est le Seigneur. Il est le Dieu de ce groupe. Le verset 1 nous dit qu'il sait toutes choses d'avance. Que ses disciples, ce n'est pas juste ses amis, c'est que Dieu les lui a donnés. Le verset 11 affirme qu'il sait qu'il va le trahir et que ça fait partie du plan du Dieu trinitaire dont il fait partie. Le verset 3 nous dit que Jésus est sorti de Dieu et qu'il va bientôt revenir à Dieu. Tout a été remis entre ses mains par le Père, nous dit le verset 3. Il a un pouvoir de connaître et d'aimer qui est remarquable. Puis dans tout ça, il y a une unité entre lui et le Père qui, sans que ça soit dit explicitement, ça nous parle de la Trinité. C'est-à-dire que Jésus est dans une écoute constante de son Père qui lui parle. Donc cette unité continue après cette incarnation du Fils qui est venu sur la terre. Donc Jésus, c'est clair, c'est le roi, le maître et le Dieu de tous. Deuxième observation, Jésus fait une action. Voilà. Deuxième, Jésus surprend tout le monde. Il fait une action qui surprend parce qu'elle est contraire à sa majesté. Dont on vient de parler. Après une telle introduction qui est dans le texte, on s'attendrait comme à une autre transfiguration de Jésus. Vous vous souvenez, sur la montagne, Jésus, tout d'un coup, il est entouré par une lumière éblouissante. Et on s'attendrait à ce que l'histoire aille dans cette direction-là. Je ne sais pas trop. Une autre lumière blanche, peut-être des lasers qui pointent vers lui, un trône qui apparaît, et Jésus est comme transporté par des anges, mis dans le trône, qui s'élève vers le plafond, et un autre ange arrive, place une couronne d'or avec des diamants sur sa tête, et un orchestre commence à jouer. Ça ne m'aurait pas surpris une telle haute, on dirait, théophanie sur Jésus-Christ ce jour-là, après tout ce qui est dit. Mais c'est tout autre chose qui se passe. Vraiment. Jésus, tout d'un coup, se lève de table, en plein milieu du repas, il enlève ses vêtements pour ne laisser que son sous-vêtement. Quoi? Il se met un linge de serviteur autour de la taille et comme un serviteur, comme un esclave, il va prendre de l'eau dans une cruche ou une urne et il va la verser dans une bassine utilisée par les esclaves qui font le ménage. Mais c'est, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que les autres continuent à manger, il se met à l'extérieur du cercle, commence à laver les pieds des convives. Si j'avais été l'un des 12, peut-être que ma réaction aurait été, quand j'aurais remarqué, « Wow, je me serais levé, peut-être, par respect. » Et j'aurais dit, non, non, Jésus, c'est pas à toi de faire ça. C'est toi qui nous accueilles, c'est toi notre maître. Laisse-moi faire ça. Retourne à ton divan, continue à manger puis à jaser. Mais je pense parce que il y a personne qui s'est levé, puis peut-être moi non plus, je me serais pas levé parce que ce qu'il faisait semblait inutile. Le groupe était déjà passé à table. Donc, les décisions sur les pieds, la propriété des pieds, c'était déjà une affaire réglée. Et donc, les disciples comprenaient tout simplement pas et ils ont gardé le silence. Ils l'ont laissé faire, mais en se posant la question, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui nous amène à une troisième observation, c'est pas juste que Jésus surprend le monde, mais il les contrarie. Ça, on va le voir avec la discussion avec Pierre. Jésus va contre les désirs du groupe qu'il a invité. Il cause un super malaise. Quand il arrive à Pierre, d'abord, il y a cette réaction. « Toi, tu vas me laver les pieds? » Puis ensuite, cette réaction ou cette réponse, « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Pierre est clair dans ses désirs. C'est un non catégorique. Ça allait à l'encontre de ses attentes dans sa relation avec Jésus, sa compréhension de qui Jésus était, sa compréhension de lui-même, ça allait à l'encontre et contre ses attentes par rapport à sa relation avec Dieu. Ce qui est important ici, c'est que Jésus insiste. Il dit, « Je vais te laver les pieds, tu n'as pas le choix. Hein? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Donc, en insistant, Jésus montre qu'il demeure, du début jusqu'à la fin, le Seigneur de ses disciples, non pas leur serviteur. Si Jésus avait donné à Pierre ce qu'il voulait, hein, qui était de, « D'accord, Pierre, ça t'offusque. Je vais arrêter ce que je suis en train de faire. » Bien, il aurait agi comme un serviteur. Le serviteur, il obéit. Mais Jésus reste le maître, même quand il prend une posture de service. N'oublions pas que Jésus reste à l'écoute de son Père céleste par la prière dans chaque situation, même lorsqu'il se met au service d'un autre être humain. Au fond, Jésus se met dans une posture de service, mais il est le serviteur d'un seul, Dieu son Père. Et ça m'a rappelé que dans la formation des pasteurs, on dit ceci, et j'avais entendu ceci quand j'ai étudié, vous allez devenir des leaders serviteurs dans l'Église. Donc, vous allez agir comme leader, serviteur des membres de l'Église. Ça veut dire que vous ne devez pas leur donner ce qu'ils désirent, mais ce dont Dieu dit qu'ils ont besoin. Donc, ce n'est pas juste de donner à l'Église ce que l'Église désire ou à l'individu, mais ce que Dieu veut que tu dois leur donner. Finalement, c'est un mandat pas juste pour les pasteurs, mais pour toutes les chrétiennes et tous les chrétiens qui veulent servir les autres, qui veulent avoir un impact pour Dieu. C'est pas juste de donner ce que les gens désirent, mais c'est d'être à l'écoute de Dieu dont tu es vraiment le serviteur, et surtout le serviteur de Dieu en étant chrétien. Être à l'écoute de Dieu par rapport à ce que l'autre a vraiment besoin. Et évidemment, il faut écouter les désirs des autres, c'est certain, mais ultimement, il faut savoir ce que Dieu veut pour eux. Et c'est tout un défi, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de savoir ce que Dieu veut pour les autres. Dieu, c'est Dieu. Et c'est lui seul qui sait. Dans la réunion de prière de tantôt, on priait pour certaines personnes. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas des personnes ici. Mais ça pourrait être vous. Et quelqu'un prie pour vous et dit, « Seigneur, je prie pour X, mais je ne sais pas exactement c'est quoi ta volonté pour X. » Oui, dans les grandes lignes, mais Seigneur, toi, tu sais. On est souvent comme ça. Et c'est sûr qu'on veut rester à l'écoute de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres, par l'étude de sa parole, par notre engagement à continuer de grandir spirituellement, par la prière d'écoute. Alors, j'aimerais demander aux jeunes, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, la prière d'écoute? Les jeunes qui sont parmi nous, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, ils sont tous au pays des merveilles, mais j'en vois quelques-uns. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière d'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 20 ans qui pourrait essayer de répondre? Josué, oui? Ou peut-être il y a Ryan en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, la prière d'écoute? Pas d'idée? Il y a Roland. C'est quoi la prière d'écoute, Roland? Est-ce que tu as une petite idée? Non? Bien, c'est... L'idée, c'est... Tu pries, puis tu dis au Seigneur, parle-moi. J'ai besoin... Parce que prier, c'est comme tu demandes que Dieu fasse quelque chose. Mais tu peux lui demander, donne-moi une meilleure compréhension pour telle chose. Alors... Parle-moi, Seigneur. Puis comment est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu peut nous parler? Tous les âges, vous pouvez répondre. Par sa parole, le Saint-Esprit peut nous parler par une petite voix à l'intérieur de notre cœur. Alors, la prière d'écoute, on voit que Jésus y était très actif dans ce domaine-là. Et nous devons l'apprendre pour servir comme lui y sert. Pas de répondre automatiquement aux désirs de chacun, mais servir les intérêts de Dieu dans leur vie. Ce qui nous amène à notre dernière observation. Jésus explique. Donc, par ses paroles et... pendant le lavement des pieds, quand il parle avec Pierre, et après l'explication qu'il avait préparée, qu'il donne après le lavement des pieds, Jésus nous montre la piste pour comment appliquer son commandement. Il le dit clairement. Ce que je viens de faire, comprenez-le bien, c'est un exemple afin que vous alliez et que vous laviez les pieds les uns des autres. Alors, dans toute cette histoire, on comprend que le lavement avec l'eau, le lavement physique avec l'eau, n'est pas à prendre au sens littéral. C'est un symbole. Parce que ce n'est pas la saleté physique, comme des pieds sales qui sortent de la rue, qui est le vrai problème ici. Jésus donne des indices pour comprendre que le lavement qu'il fait avec l'eau, ça représente le pardon des péchés. Et il va bientôt rendre possible, accomplir le pardon de tous les péchés par sa mort et sa résurrection. Les humains reçoivent ce pardon des péchés par la foi. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre et aux autres qui sont là, qui sont déjà lavés. Avez-vous remarqué qu'il dit à Pierre? Parce que Pierre lui dit, « Mais gars, moi, pour rester dans ta gang, je suis prêt à faire ce que tu dis. Fait que lave-moi non seulement les pieds, mais la tête puis les mains puis tout le reste. » Et Jésus, « Mais t'es déjà lavé, t'es déjà pur. » T'es déjà baigné, Pierre. Mais ça, c'est à cause que Pierre a déjà placé sa foi en Jésus, la source de tout pardon. Il est déjà baigné, il est déjà pur. Et les autres aussi. Sauf un, Judas, Jésus voyait qu'il n'avait pas encore reçu, accepté vraiment le plan de Jésus et il n'avait pas encore pleinement accepté ce pardon et cette nouvelle naissance. Donc, ça, c'est important qu'on parle ici qu'à un certain niveau, par la foi, on est déjà lavé et pur une fois pour toutes. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, un petit peu plus tard, dans la même soirée, dans Jean 15, verset 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez, ça parle du salut. Maintenant, si Jésus les a déjà lavés complètement et qu'ils ont reçu la pureté par leur acte de foi et en se connectant à Jésus, pourquoi le besoin d'un autre lavement régulier qui est dans cette histoire le lavement des pieds? Si le lavement avec l'eau, c'est le pardon des péchés, de quel pardon est-ce que nous avons besoin à répétition, même si on a déjà reçu le pardon une fois pour toutes? Hein, il y a comme deux niveaux. Il y a le pardon reçu une fois pour toutes, et puis il y a le lavement des pieds, c'est-à-dire le pardon qu'on reçoit à répétition. Et surtout, c'est quelque chose qu'on peut se donner les uns aux autres. Hein? Le salut, on le reçoit de Jésus seulement. Cette baignade-là, c'est Jésus seul qui la donne. Mais c'est quoi ce lavement des pieds qu'on peut se donner les uns aux autres? Eh bien, j'ai réfléchi beaucoup à ça cette semaine. De quoi ai-je besoin de vous en tant que chrétien et chrétienne, de frères et sœurs? Bien, j'ai besoin des choses suivantes, moi, dans ma vie chrétienne de tous les jours. J'ai besoin qu'on se pardonne les uns aux autres. Nous avons besoin qu'on se pardonne les uns aux autres. Puis je pense que ça fait partie du lavement des pieds, avec des guillemets. J'ai besoin absolument de recevoir le pardon de ceux que j'ai offensés. Et je peux vous avouer que depuis que je suis devenu le pasteur, ce besoin il a augmenté. C'est-à-dire que je ne pense pas que je suis devenu une personne pire que j'étais avant, mais à cause du rôle que je joue, c'est plus facile pour moi de blesser les gens. Si je suis encore ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont pardonné. Mais c'est la même chose pour chacun de nous. Il faut qu'on se pardonne les uns les autres. C'est une manière de se laver les pieds les uns les autres. Mais aussi, il faut que je sois confronté, stimulé par d'autres pour demander pardon à quelqu'un d'autre ou à Dieu quand il voit que j'ai commis une faute et que je ne le vois pas. Ça, c'est un art difficile, mais ça fait partie de laver les pieds. Être confronté dans l'amour lorsqu'il faut que moi, je demande pardon. Puis aussi, dans la vie d'église régulière, on s'encourage mutuellement à se souvenir que nous sommes des filles et des fils de Dieu bien-aimés, pardonnés. Ça aussi, je peux me sentir indigne, je peux me sentir découragé, coupable, chrétien médiocre. Par votre ministère dans ma vie, vous me remontez dans ma vraie identité de personne pardonnée et acceptée. Entre nous, dans la communauté, on reçoit le bienfait de tous nos différents dons et ministères. Les membres du corps se lavent les pieds les uns les autres. Que ce soit dans la prédication, peut-être je suis en train de laver vos pieds en vous parlant ce matin, mais il y a l'encouragement, appeler quelqu'un, lui donner un verset ou un mot d'encouragement, le service, l'entraide, l'art, hein? On a des musiciens, ça peut être d'autres formes d'art, la musique, l'administration, tous les ministères font que ça me garde en tant que chrétien dans l'assurance de l'amour et du pardon de Dieu. Et puis aussi, si je m'éloigne, ça peut nous arriver à tous. On est découragé, on est blessé, on s'éloigne de l'Église. Je ne vous recommande pas de le faire, mais dans la réalité, ça arrive, et ça arrive souvent. Les statistiques nous disent il y a plus de Québécois chrétiens évangéliques, beaucoup plus, à l'extérieur des églises qu'à l'intérieur. Quelqu'un m'avait dit une fois, c'est comme peut-être deux tiers, un tiers. Si on demande aux gens, êtes-vous chrétien évangélique? Ceux qui disent oui, bien, il y en a plus que la moitié qui sont en dehors des églises. Donc, laver les pieds, c'est aussi aller vers, garder contact, montrer de l'amour, et puis, quand c'est le bon moment, pardonne, repens-toi ou va dire la vérité, confronte. Demande et reçois le pardon de Dieu. Reviens parmi nous. Reviens prendre ta place à la table. Au fond, laver les pieds, c'est que tu accueilles, tu aides à accueillir ta sœur, ton frère, à la table du Seigneur. Et parce que ce premier lavement des pieds, c'était à la première table du Seigneur. Je pense que renversons les forteresses. C'est un peu ça, hein? Michel, Élise, ils sont à Granby cette fin de semaine. Et c'est quoi, renversons les forteresses? C'est des chrétiens qui aident d'autres chrétiens à sortir de... Ils sont comme bloqués dans leur vie chrétienne à cause d'une blessure du passé. Au départ, c'était ça, forteresse. Et il y a des guérisons merveilleuses qui se passent là. Ils se lavent les pieds les uns des autres. Maintenant, dans tout cela, il n'y a pas de recette simple. Je répète, soyons à l'écoute de Dieu pour voir comment agir dans telle ou telle situation et quand. Toujours avec un cœur de serviteur, toujours avec amour et jamais dans le jugement. Alors, on va conclure. Je vais surtout répéter la leçon que j'ai sentie que le Seigneur me donnait à travers cette histoire qui est décapante, mais qui est merveilleuse. Pour servir quelqu'un d'autre, comme Jésus le demande, il ne s'agit pas de simplement ou automatiquement répondre à ses désirs, mais plutôt de servir les intérêts de Dieu dans sa vie. Dieu qui veut l'amener à lui et recevoir le pardon et vivre dans cette nouvelle vie avec nous, avec son peuple. Donc cette semaine, je t'invite à prier cette prière à un moment donné. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu me demandes de tendre la main pour lui rappeler que Dieu l'aime et qu'elle est invitée à se rapprocher de sa table? Y a-t-il un geste que je pourrais poser pour lui montrer l'amour, ton amour et ton pardon? Vous comprenez l'idée? Dans un instant, nous allons, juste avant la table du Seigneur, on va prendre un moment pour nous accueillir les uns les autres à la table du pardon. On va faire ça, mais avant, donc je vous invite à prier avec moi. Levez-vous, levons-nous. Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus, le roi serviteur. Et oui, nous te disons, Jésus, nous voulons marcher à ta suite. Oui, enseigne-nous à écouter ton père. Enseigne-nous à être bien harmonisé avec ta volonté, pour vraiment être la lumière du monde, le sel de la terre et des laveurs de pieds qui rapprochent les autres de toi. Ô Père, guide-nous. Et puis, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut te demander pardon pour quelque chose, en fait, on a tous besoin tout le temps de te demander pardon. Eh bien, ensemble, on se tourne vers toi et on dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Continue à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Christ, nous prions. Amen.